le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local.
Bonsoir et bienvenue à l'émission d'Attaque, donc sur Radio Canus 102.2. Donc aujourd'hui, pour vous parler de la COP21 et après. Et donc avec Josette d'Attaque et avec Camille d'Alternatiba. Donc déjà, je vous propose de vous présenter, au moins de présenter vos structures et quelles actions elles ont sur les questions de changement climatique.
Josette, donc d'Attaque, eh bien, pas besoin de présenter l'association, mais depuis 2014 et même avant, il est sûr que l'association Attaque s'est joint aux coalitions qui se créaient, coalition Climat 21 en particulier, qui comprend 130 organisations et qui a suivi et porté des revendications pour avant cette COP21.
Et donc bonjour à tous, Camille, donc de Alternatiba. Donc Alternatiba, c'est un collectif qui s'est constitué à Bayonne autour de la question du climat et notamment autour de toutes les alternatives qui existent et qu'on souhaite montrer et diffuser. Voilà, il y a eu notamment plusieurs villages, des centaines de villages en France cette année. Maintenant, il y a Alternatiba dans toutes les régions, dans tous les départements et même en Europe plus largement.
Et donc il y a eu notamment Givors au mois de mai,
voilà.
Et puis à Lyon sur les berges du Rhône en septembre.
Voilà. Un gros village qui a regroupé finalement tous les porteurs de solutions, tous les gens qui ont des solutions concrètes à nous montrer autour du transport, de l'habitat, de l'économie sociale et solidaire. Voilà.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant des associations qui sont un petit peu institué et connu que des inconnus, des gens qui ont voulu s'investir sans être forcément dans une structure, une association. Donc il y a aussi cette liberté. D'ailleurs, Attaque était Alternatiba.
Voilà, tout à fait, bien sûr. Nous avons rejoint les coalitions.
Oui, on travaille ensemble et avec tout le monde. L'idée, justement, c'est d'intégrer et d'accueillir le plus de monde à tous les niveaux, en fait.
Donc une des premières questions que j'avais envie de vous poser, alors qui est un peu peut-être une question bateau, mais qu'est-ce qu'on attendait, notamment en termes de mouvements sociaux et citoyens, de cette COP, donc cette conférence internationale des partis, les partis étant notamment tous les pays, quels enjeux il y avait, et comment on a pu se faire entendre? Et est-ce qu'on en attendait vraiment quelque chose? Parce qu'on sait qu'il y avait eu d'autres, c'est la 21e, hein, comme son nom l'indique, et qu'il y avait déjà eu ces événements nationaux qui n'avaient pas justement porté à beaucoup d'espérance. On pense à Copenhague, ou même celles qui avaient pu donner de l'espérance n'avaient pas forcément été suivies d'effet par la suite.
C'est sûr que quelque part on en attendait beaucoup, au sens où on aurait aimé un engagement fort et des décisions qui amenaient à des actions concrètes avec des engagements. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire passer en tant que quelque part que mouvement citoyen, c'était l'urgence climatique et le fait que c'est maintenant qu'il faut changer, que c'est un changement finalement assez global, un changement vraiment au niveau du système, et qu'il existe déjà beaucoup de choses. Plein de choses qui existent et qui sont déjà portées par beaucoup de gens, et qu'il n'y a pas tout à construire. Ça, c'était un des messages.
Oui, c'est le message qu'a porté surtout Alternatiba, hein, de présenter les alternatives. Ça, c'est très important. Et sinon, je pense que la société civile a fixé des lignes rouges, a dressé des alarmes, à savoir laisser les hydrocarbures dans le sol, arrêter de subventionner les énergies fossiles en particulier. Développer les énergies renouvelables, voilà ce qu'on attend, et que l'économie et le commerce soient soumis aux objectifs climatiques, aux objectifs du climat, et de moins 2 degrés d'augmentation de température par rapport à 1850, l'ère pré-industrielle. Également des mesures qui fassent baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je crois quand même que tout cela avait été posé, hein, quand même, comme exigence.
Oui, donc je pense qu'on y reviendra dans la suite de l'émission, que finalement, même s'il y a eu un espèce de satisfecit de la part des institutions porteuses, tout est quand même... à faire,
oh ben bien sûr,
ou reporter à dans plus tard, et que ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Exactement, c'était les attentes, et ce sont les attentes, bien sûr.
Et vous disiez, vous l'attendiez, donc il y a eu quand même un certain nombre d'alertes, soit par rapport à des messages qu'on peut passer à TAC, ou tous les mouvements, puis les mouvements alternatifs dans toutes les villes qui se sont déroulés pendant pratiquement toute l'année 2015, même avant. Et il y a quand même un certain nombre de messages qui sont passés. Donc, est-ce qu'ils ont pu vraiment être portés?
L'idée, c'était que tous ces mouvements montrent que la société civile est investie, s'investit, et que ça nous touche, que ce soit du côté, des solutions qu'on peut proposer, mais aussi d'une certaine inquiétude. Donc l'idée, c'était vraiment de porter ça et de que ça puisse être relayé derrière au niveau de la COP, en ayant un accord, on va dire, certes universel, mais aussi contraignant pour les États, qui amène à des vraies avancées, on va dire. Et quelque part, les ONG ont été présentes et associées au moment de la COP, mais quelque part, leurs revendications n'ont pas été entendues. Et les revendications globales n'ont pas été entendues dans les accords réellement décidés.
En tout cas, le côté urgence, on a pu penser par rapport au discours, c'était un peu la COP de la dernière chance. Donc, c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que l'accord n'est pas si ambitieux que ça, parce qu'il fallait vraiment arriver à un accord, pratiquement quel qu'il soit, et que c'était presque déjà bien qu'il y ait un accord, même si ce n'est pas celui qu'on attendait. On a même entendu qu'il est plus ambitieux qu'il aurait pu, mais il est beaucoup moins ambitieux qu'il ne l'aurait dû. Mais cette remontée d'alertes, préoccupations et d'alternatives, qui participait vraiment aux négociations de la COP? Est-ce que justement le mouvement social et les ONG ont pu se faire entendre? Et de quelle façon ça s'est passé? Et quelle voix a pu être portée au moment et dans les instances de la conférence?
Alors, ce sont d'abord les pays qui constitue la grande réunion qui s'appelle Accord.
Il y avait les 195 États qui étaient présents, avec des négociateurs qui avaient travaillé en amont. Oui. Donc, c'est des choses qui ont été pensées plus d'un an et travaillées plus d'un an en amont. Hein. Tout s'est pas fait au moment de la COP.
Donc on a vu les chefs d'État, mais derrière, il y avait des négociateurs...
Bien sûr, qui connaissaient bien les sujets et qui ont discuté entre eux de ce qui pouvait se poser, de ce qui pouvait se faire. Concrètement, en termes de société civile, on était plutôt à côté et pas dedans. À côté, par tous les mouvements qu'il y a eu durant l'année, mais aussi vraiment au moment de la COP à Paris et ailleurs, même dans le monde, il y a eu des marches, des manifestations, des choses qui se sont faites malgré les circonstances de fin d'année 2015. Donc on était plutôt à côté, très présent, mais pas dedans.
Oui, tout à fait. Parce que les pays se réunissent pour dresser un accord cadre additionnel à la Convention des Nations Unies. Et d'ailleurs, cet accord de Paris sera posé à la Convention des Nations Unies. Naturellement, il prépare. Il y avait, depuis l'accord de Cancun, fonctionne tout un secrétariat, tout un tas d'organes qui ont, bien sûr, continué à préparer cette nouvelle réunion. On a vu Hollande se démener à travers le monde, hein, et puis peut-être donner des gifles tout de suite après, mais ça, c'est autre chose. Donc, en réalité, la société civile, elle est tenue à côté et, de toute façon, elle est un tout petit peu mentionnée dans l'accord, à savoir qu'on dit qu'il faut que les efforts soient faits par tous, par les pays, mais par les villes, et après, on descend vers les associations, les personnes, les communautés, les peuples indigènes. Oui, ils sont un peu cités en début et en préambule et en
annexe. Mais cité comme devant faire des efforts, pas cité comme étant, par exemple, les impactés par le changement climatique. Également des personnes, peut-être qu'on y reviendra après, mais des personnes qui pourraient revendiquer auprès d'une instance le fait que les accords ne soient pas appliqués ou qu'on n'arrive pas aux 2 degrés.
Ce n'est pas ça. C'est se mettre en route aussi pour favoriser, bien sûr, la baisse d'émissions de gaz à effet de serre et la baisse, ou du moins contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, dit-on, alors que nous sommes partis sans doute vers 3 degrés.
Mais en effet, les pays en développement sont ceux qui ont le plus fait entendre l'urgence. Parce que quelque part, ils sont les plus victimes et les plus touchés, en étant, pour le coup, pas les plus gros producteurs de gaz à effet de serre.
Oui.
Et est-ce qu'ils ont réellement pu se faire entendre ?
Ils ont porté leur voix sur l'urgence ou sur les catastrophes auxquelles ils ont été soumis. Hein. Maintenant, je crois qu'on nous a dit à une des assemblées du soir que la salle avait été remuée quand même par leur témoignage. Et c'est vrai que nous, de notre côté, dans certaines conférences, nous étions remués aussi par leurs témoignages, hein, par les témoignages de personnes maintenant déplacées. Ce sont des millions de personnes qui sont déplacées, parce qu'on dit déplacées pour des déplacés climatiques. Et si moi je suis choquée quand j'entends dire que des personnes venant d'Afrique doivent retourner dans leur pays, alors que ce sont des déplacés climatiques aussi, et qui ne peuvent pas faire autrement que de dire où aller pour manger, quoi.
Mais justement, à ce que j'ai pu lire par rapport aux accords, il y a un certain nombre de choses qui devaient être précisées dans cet accord, notamment en termes de financement pour la transition écologique et énergétique de ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les mêmes modes de faire des pays riches qui ont conduit à ces problèmes climatiques. Mmh. Également la question de l'adaptation, puisque c'est les principaux victimes par rapport aux zones aussi climatiques dans lesquelles ils vivent. Et puis, quand on voit le problème des migrants aujourd'hui, ça veut dire qu'aussi on se prépare à des problèmes beaucoup plus importants. Et là, il semble quand même que l'accord n'ait pas forcément été à la hauteur, que ce soit en termes de financement. Aussi, les brevets, il y avait des questions qui avaient été évoquées dans les premières versions de possibilités que les brevets, la propriété intellectuelle permettent à ces pays de bénéficier des avancées technologiques vertes, entre guillemets, sans avoir à les payer. Et tout ça a été finalement écarté des accords.
Disons que rien n'est chiffré, hein, sauf peut-être le montant de 100 milliards de dons à rassembler pour l'adaptation dans les pays du Sud. Mais en réalité, les promesses de dons sont beaucoup au-dessous jusqu'à maintenant. Et il y a un organe mis en place pour justement examiner les besoins de différents pays et comment ils peuvent être aidés. À propos de l'aide technique ou technologique, on parle aussi de nouvelles technologies et il faut faire attention et nous devons continuer à surveiller ce qu'on entend par nouvelles technologies. Parce que à Paris un salon là au Grand Palais sur les nouvelles ingénieries, comme on dit. Et puis, certains pays, en partie certains peuples indigènes, ne souhaitent pas recevoir justement toutes ces interventions. Ils souhaitent peut-être, eux, déjà préserver la terre qu'ils ont, préserver l'écosystème, les écosystèmes dans lesquels ils aiment vivre. Et ça, il faut l'entendre également. Et
en fait, on risque de se retrouver avec des technologies, nouvelles technologies ou technologies vertes qui sont portées par les mêmes que ceux qui font de l'extraction pétrolière.
Bien sûr.
Et donc, c'est l'oubli des alternatives dont parlait Camille, qui, elles, justement, ne viennent pas de...
Qui peuvent être les alternatives des peuples eux-mêmes, qui seront les meilleurs, d'ailleurs, à mon avis.
C'est pour ça que l'idée que la COP est un succès, on va dire, diplomatique, parce que il y a eu cet accord qui est quand même universel, à la différence de celui de Copenhague, qui a rassemblé quelque part, on a pu tous signer un accord commun, et puis qui fixe un objectif de limitation à 1,5 ou 2 degrés. Par contre, en termes de réalisation, c'est un échec. C'est un échec climatique parce qu'il ne prend pas en compte l'urgence et la nécessité d'action concrète, notamment par rapport au transport maritime et
aérien. C'est pas signalé.
Ça, il n'y a rien eu, alors que c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc et là, ça avait été proposé, ça a été enlevé.
Ça a été éliminé.
Et en gros, on a l'impression que ça ne dépend pas des pays, c'est les pays qui ont négocié et ces choses-là. Transport maritime et aviation civile, ça ne dépend
ça
pas des pays
trop,
et ça,
ouais, ça n'existe pas. On peut dire que quand ça dérangeait trop, ça a été éliminé des négociations très rapidement. Pareil pour la taxe carbone. Voilà, il n'y a pas eu de choses chiffrées, comme tu disais.
Oui. Et puis elle n'est même pas tellement mentionnée. Elle n'est même pas tellement mentionnée dans l'accord.
Il n'y a pas de
mais
date.
Mais il faut dire aussi qu'elle a été un échec jusqu'à maintenant, hein, que son application ne marche pas, que c'est peut-être même au fond de la tromperie. Et donc, ce n'est pas tellement la taxe carbone qu'il faut défendre, moi je crois. Ouais. Mais il est sûr qu'on ne parle pas de l'industrie, du commerce, de l'agriculture industrielle.
J'ai même pu comprendre que le commerce, il était interdit d'en parler et que... Ben, ça se passe ailleurs et qu'il est hors de question d'y toucher.
Je me demande, je crois même que dans le compte des gaz à effet de serre, on ne compte pas les pollutions ou les transports maritimes et aériens. Ils sont écartés de cette comptabilité. Alors, c'est pratique, alors que les avions multiplient leurs déplacements de plus en plus. Moi, je suis effarée parce que on continue, quoi.
Ben effectivement, si on raisonne en pays, à ce que j'ai pu comprendre, c'est les émissions de gaz à effet de serre sont comptées par rapport à ce qu'on produit et pas par rapport à ce qu'on consomme. C'est-à-dire que nous, quand même, on consomme, enfin, je parle pays européen, on consomme beaucoup de produits qui sont produits ailleurs, donc les gaz à effet de serre sont produits ailleurs. Si on compte pas le transport aérien et maritime, ils comptent pas non plus. Donc tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme nous et qui vient d'ailleurs, ça ne compte pas dans notre bilan.
Par contre, ça gonfle artificiellement le bilan d'autres pays.
Oui.
Ça c'est sûr. Et ce qui est le risque, c'est que les solutions qui sont soutenues par les dominants et ceux qui sont déjà à la tête de tout ça, maintiennent finalement un système en place, maintiennent des solutions qui sont finalement de fausses solutions. Le nucléaire, les OGM, tous les agrocarburants.
Pas du tout mentionné.
Voilà.
Les énergies, il n'y a pas le mot énergie.
Énergie renouvelable,
d'autres
alternatives.
Énergie renouvelable, oui, mais pas du tout les autres énergies ne sont pas mentionnées.
Sauf que par exemple, il y a d'autres modes de comptabilité. Parce qu'on parlait, le commerce, on n'en parle pas, mais par exemple, tout ce qui concerne la compensation carbone, elle reste valable.
Oui, les absorptions.
Alors ça veut dire qu'on a le droit on a le droit de continuer.
Oui. Les riches peuvent continuer si on peut payer. Nous, c'est clair que ce n'est pas ce qu'on souhaitait, parce qu'on souhaiterait se diriger vers une société qui nous aille mieux, une société où on puisse gérer mieux nos consommations, être dans d'autres logiques plus locales, des logiques aussi de partage, des logiques de réemploi, de réutilisation, enfin voilà, de choses, de revenir peut-être un peu à des choses plus essentielles et qui, à notre sens, donneraient une société plus juste, plus sympathique aussi, et moins destructrice pour la planète.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je suis un peu sensibilisée parce que j'ai une fille qui est dans les collectes de déchets, etc. Donc, j'entends un peu ce qu'elle dit. Et au fond, on peut dire que les collectivités mettent des petites choses en route. Hein. Elles mettent des choses en route dans les recyclages, récupérations, en somme, ce que nous souhaitons voir appliquer en grand, ce sont des petites des frémissements hein, au niveau de chacun, d'ailleurs individuellement ou au niveau de collectif d'une collectivité puis d'un pays, mais ce sont des petites choses.
Mais effectivement, et même nous en tant que habitants de collectivité, c'est aussi soutenir notre collectivité quand elle veut, par exemple, reprendre la régie, enfin la gestion de l'eau en interne, ce qui risque, alors bon, par rapport aux négociations sur des traités commerciaux et d'investissement, de ne plus être possible, c'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité de ne pas confier la gestion de son eau à une entreprise privée. C'est-à-dire qu'on va nous l'interdire parce que l'entreprise privée pourra, dans le cadre de, voilà, de certains contrats internationaux qu'on est en train de passer, bah, c'est de la perte pour elle parce qu'elle aurait pu gagner de l'argent en gérant notre eau. Et donc, elle pourrait se retourner dans des tribunaux internationaux. Là, je parle entre autres du traité transatlantique.
Voilà.
Et on peut pas dire que l'accord de la COP21 nous offre autant, enfin, de moyens justement d'aller vers des tribunaux pour faire valoir nos droits qui sont essentiels que les entreprises privées quand ce type de contrat et de traité sera passé.
Dans la COP21, il n'y a rien qui soit de juridique. Absolument rien. Il n'y a pas de.
Parce qu'il est quand même dit qu'il est contraignant, mais finalement, quand on cherche, on ne voit pas où se trouve la contrainte.
Mm-hmm. On parle d'un accord contraignant, enfin universel et contraignant. Concrètement, si on fait la somme des engagements nationaux, on ne va pas du tout vers le 1,5 ou 2. On va plutôt, comme je le disais, vers le 3.
Oui.
Donc concrètement, c'est qu'on n'a pas pris les mesures.
Moi, j'ai cru comprendre le 2 ou le 1,5. On reverra ça en 2050. Mais ce sera trop tard. C'est déjà trop tard aujourd'hui.
Sauf que les climatologues disent c'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions-là. On est dans l'urgence. C'est pas on reverra un peu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en 2050. C'est.
Justement, dans l'accord prévu, normalement, les pays doivent déposer leurs propositions en 2020. Et des propositions ambitieuses sont demandées, et encore plus ambitieuses après 2020. Mais il y a des pays qui doivent s'adapter et qui, eux, peuvent avoir jusqu'à 2025. Alors, ce sont peut-être plutôt les pays du Sud, je suppose, qui peuvent déposer leurs propositions en 2025 ou en 2030. Et là, on est en train de perdre du temps parce que l'urgence est maintenant. Hein, voilà. Donc, c'était en particulier nos.
En tout cas, on n'a pas mis en place un système de suivi avec un système de contraintes, de sanctions et de réévaluation, quitte à dire vos engagements, là, il faut que vous les modifiez à la baisse. Enfin, à la baisse, je veux dire, à la baisse des émissions.
Il n'y a pas de mécanisme de vérification, il n'y a pas eu de date fixée où on serait censé arriver au pic on doit redescendre. Il n'y a pas de.
Ce qui est fixé, c'est quand même un calendrier de déclaration des pays, hein, puisque en 2018 déjà on additionne tout, on regarde ce qui a été les promesses plutôt. En 2020 on fait le compte de ce qui a été déposé et en 2025 et tous les 5 ans.
Oui, c'est un calendrier de travail.
C'est un calendrier de travail, oui. On peut dire quand même que ça invite les pays à être sérieux s'ils le veulent, hein, et c'est là qu'on verra justement. On peut peut-être
s'ils le veulent.
Oui, oui.
Sachant qu'on a quand même une COP tous les ans et que ce serait peut-être le moment et que annuellement vérifier où on va.
Il faut déjà mettre en place ce gros secrétariat là. Et je pense qu'il n'y aura pas trop d'un an pour mettre en place au moins 10 organes de fonctionnement qui fonctionnent avec ceux de la Convention aux Nations Unies. Et enfin, une grosse machine, quoi.
Je vous propose de se retrouver après une petite pause musicale.
Je les vois me raconter des salades. Disent que la terre est en danger. Disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos. À nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo. Et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur. Manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure. Total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer. Alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre.
qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Ni quand la planète, ni quand la planète, ni quand la planète, ni quand la planète est tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié. Vu de façon on va tous crever, un seul objectif en tête.
On écoutait HK et les Saltimbanques, niquons la planète. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui, façon de parler. On parle justement de la COP21 et de ce qui en advient une fois que certains se sont félicités et d'autres moins de cet accord qui a peut-être l'unique mérite d'exister. Et donc, on évoquait donc avant la pause la question du temps. C'est-à-dire que même s'il y a des engagements, les parties prenantes se sont laissées le temps. Donc, par rapport à la contrainte, elle n'est quand même pas si contraignante que ça, puisqu'elle est contraignante dans un certain temps. Donc les prochains, le suivi dans 5 ans. Camille aussi parlait d'un accord universel et contraignant. Donc on voit bien qu'il n'est pas si contraignant que ça, puisqu'on a le temps de le rendre contraignant. Universel, pas tant que ça, puisqu'on a enlevé 10% des émissions de gaz à effet de serre en estimant que transports aériens et maritimes ne sont pas concernés. Et sur la question aussi de la contrainte, c'est qu'aujourd'hui, cet accord, tout le monde s'est félicité que plein de pays le signent, mais il n'existe pas en tant que tel, parce qu'il faut qu'il soit ratifié par les pays pour devenir applicable. Et donc, il sera, la signature va...
Oui, l'accord va être déposé aux Nations Unies le 22 avril prochain, 2016, et pendant un an, il est ouvert à la signature... aux Nations Unies, il y aura une grande réunion importante, honorable, pour inviter les pays à la signature le 22 avril. Et il fonctionnera si 55 pays le signent, au moins, représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc ça peut être un peu compliqué.
À voir. Alors c'est vrai que certains accords ne sont pas tous signés d'ailleurs et ont mis longtemps.
Ouais, j'ai lu que l'accord de Kyoto avait fini par être applicable, donc ratifié par le nombre de parties prenantes nécessaires au bout de 8 ans.
Voilà.
Donc, et on vient d'expliquer quand même que que ce soit dans 5 ans, dans 8 ans ou même déjà aujourd'hui, il est déjà pratiquement trop tard.
C'est là où est l'écart entre l'urgence d'un côté et puis la lenteur.
Le temps diplomatique.
Voilà. Et c'est bien là où on n'est pas satisfait de cet accord. Ce qui a été posé est posé, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout à la mesure de ce qu'il faudrait, des réactions qu'il faudrait avoir là. C'est bien ça qui nous embête, et c'est pour ça qu'on va continuer les mouvements citoyens et l'action pour que ça bouge aussi par le bas.
Bah justement, la question c'est oui, comment continuer à agir? On a parlé tout à l'heure qu'il y a des collectivités qui s'engagent, donc ne pas hésiter à les appuyer, même en étant revendicatif, même en les poussant. Et puis, est-ce que justement, au moment de la COP en décembre, avec l'état d'urgence, est-ce que la société civile, les mouvements sociaux ont pu vraiment s'exprimer tel qu'ils avaient prévu de le faire et avoir la visibilité qu'ils souhaitaient?
Alors c'est sûr que les attentats et l'état d'urgence, ça a contraint l'expression citoyenne. Ça a été préjudiciable à ce qu'aurait pu être la mobilisation citoyenne. Il y a des gens qui sont sûrement pas sortis dans la rue, d'autant plus qu'il y avait une interdiction de manifester, qu'il y a eu des assignations à résidence. Voilà, donc il y a eu quand même pas mal d'actions qui ont sûrement freiné. On a dû faire face. Enfin, il y a eu l'annulation de la marche qui était prévue dans toute la France le 28 novembre, remise en cause du village des alternatives, de plein de choses, des actions du 12 décembre. Il y avait plein de choses qui étaient remises en question. Mais c'est là où ça a été, on va dire, assez fort, c'est que face à ça, on a tenu. On a dit non, on fait quand même. Et ouais. Voilà, c'est pas, ça n'empêche rien, mais on continue, on lâche pas quoi.
Et donc à Lyon, le 28, nous étions par groupe de deux, parce que si on est par deux, on peut porter une parole politique. On a appris ça à Paris aussi, parce qu'on nous préparait.
C'est bon à savoir.
Oui, on nous a formés pour les manifestations, on était bien bien préparés. Et donc si l'on est deux, on peut porter une parole politique. Donc dans les rues de Lyon, nous avions des papiers parlant de l'urgence climatique. Et les personnes qui voulaient étaient interpellées et donc échangées. Hein. À un moment, il y a eu aussi une chaîne qui s'est faite quand même sur la place Bellecour à l'initiative de qui était là. Et donc il y avait un peu de festif. Et le 29, il y a eu... Donc c'était le 28 ou le 29, la chaîne humaine. On a fait une chaîne humaine à Lyon de toute façon. Alors avec accord, bien sûr, de la préfecture au minima, mais bien tranquillement, action non violente, et ça c'était déjà très bien. Et donc,
non, je disais, on se sentait aussi fort pour faire ces actions à Lyon et à Paris, parce qu'on avait lancé un appel à soutien et mobilisation qui a été signé par... entre 20-25 000 personnes en quelques jours, alors que juste par un relais des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Donc on se disait, en fait, c'est que derrière, il y a des gens. C'est pour ça qu'on a maintenu.
On le sentait, bien sûr. On voit, lorsqu'on fait pratique ces manifestations avec des papiers, avec des messages, on voit bien que des gens passent et puis d'autres veulent s'arrêter, demandent. Et nous faisions la chaîne humaine à Lyon, des gens sont venus s'ajouter avec plaisir. Ils étaient à leur fenêtre, ils descendaient, ils venaient. Donc on sent qu'il y a une pensée, une parole qui veut être portée. Et donc à Paris, les mêmes choses se sont produites, heureusement. Il y avait bien sûr tout un taf de la coalition climat qui était en relation avec la préfecture et qui disait voilà ce que nous voulons faire, en particulier pour la journée du 12. Moi, je n'ai pas vu avant, mais j'étais venue pour la journée du 4, parce que là, on nous disait de venir au Grand Palais et vous verrez ce qui va se passer. Ah bon, alors moi, je suis arrivée au Grand Palais, puis nous allons faire quelque chose qui n'est pas permis, mais c'est annoncé. Alors voilà comment ça se présentait, c'était très intéressant. Donc la manifestation était annoncée, le Grand Palais avait laissé des exposants, d'ailleurs qui étaient des financeurs de la COP21, qui exposaient leurs nouvelles technologies merveilleuses, n'est-ce pas, supposées être moins... sévère en dégagement de gaz à effet de serre, etc.
C'était qui, Veolia, Total?
Engie, oui, bien sûr, oui. Et donc là, tout d'un coup, j'ai vu d'abord qu'il y avait un tri des personnes, alors tout le monde ne pouvait pas rentrer, et certaines figures ou certaines personnes avec un appareil photo ou autre étaient mises de côté. Bon, et d'autres rentraient, et puis tout d'un coup j'ai entendu un groupe qui criait, j'ai compris que c'était là que je devais aller avec d'autres, donc protester parce qu'on était en train de sortir de pousser, de mettre dehors. Il y avait donc des gens pour vider, et on vidait celui qui avait osé prendre la parole, sûrement face à une solution, à une fausse solution, ce qu'on appelle une fausse solution. Et ça s'est produit 4-5 fois comme ça. C'était une forme de manifestation qui a quand même eu lieu. Voilà. Et alors que les forces de police étaient, oh là là, déployées tout autour du Grand Palais. Que les gens étaient étonnés d'ailleurs de voir cela. Et donc le 12 décembre, eh bien, le 12 décembre, eh bien, la même chose s'est produite, c'est-à-dire de longues négociations avec la préfecture pour demander. Alors plusieurs solutions avaient été envisagées. On a dit on ne veut pas être enfermé dans un parc, dans un stade.
Ils nous proposaient un stade.
Oui.
Et nous on a dit on ne veut pas de stade.
On veut aller dans la rue. Et justement le 12 a été une belle journée parce que nous étions dans Paris, quoi, et que tout s'est passé très très bien.
Oui, ben, notamment.
Si, et puis aller de la Grande Armée, hein, aller entre l'Arc de Triomphe et la Défense, c'était extraordinaire. Et le matin, il devait y avoir aussi des gens dans des rues de Paris qui, par leur attroupement, écrivaient Climate Change for Peace. Enfin voilà, plein de belles idées.
Et oui, c'était de la géolocalisation, en fait, organisée par les Amis de la Terre, qui écrivaient Climate Justice.
Il y a eu Greenpeace qui a fait une belle sortie parce qu'ils sont montés sur l'Arc de Triomphe, déployés une banderole qui disait à Hollande, Hollande pour le climat, enfin change, climate change, et Hollande fait changer le climat, et puis qui répandait de la peinture jaune sur les champs, c'est autour de la Concorde, là. Et alors, après, justement, c'est Guillaume qui racontait que quand les voitures roulaient sur cette peinture jaune, elles allaient par toutes les artères, et ça faisait un grand soleil. Alors, ce sont des beaux moments. Et des moments contre les banques. Il y a eu des manifestations pendant la COP, du 4 au 12, des manifs qui se passaient devant les banques, qui trompaient la police d'un côté, elles avaient fait fermer les banques d'un côté pendant qu'on sortait des chaises dans une autre banque.
C'était le fauchage de chaises.
La COP. Voilà.
On a fait justement des missions en fin d'année dernière sur cette question, parce qu'il y a effectivement aussi toute la question aussi de se battre quand on parle de solutions, ou du moins de mouvement et de la façon de lutter, de lutter pour que ces banques se désinvestissent de projets nuisibles pour le climat. Et qu'il y a beaucoup, enfin il y a un certain nombre de mouvements ou de campagnes également aux États-Unis. Je ne sais plus sur quelle, c'est une énorme canalisation entre l'Alaska, je crois, et les États-Unis, qui finalement a, enfin, pour l'instant, est arrêté par le président des États-Unis grâce à des campagnes les questions de désinvestissement.
Lutte,
voilà.
Tous ces grands projets dont on ne veut pas, en fait, et qui sont souvent soutenus par les grands, mais dont nous, on ne voit pas l'intérêt et dont on voit surtout les méfaits. Donc, ça, c'est sûr que.
Oui, je pense qu'on peut se réjouir qu'une forme de démocratie se soit poursuivie quand même pendant cette COP. Toutes les salles qui avaient été prévues pour des conférences fonctionnaient. Les gens, nous circulions. Bien sûr qu'il y avait un examen des sacs juste au début, et puis tout se passait bien, et surtout dans une manière d'action non violente. Voilà. Et donc, nous avions une formation bien précise, avec des médecins, des juristes aussi, qui avant d'aller vers les manifestations, et donc des précautions en tête.
Pendant la COP, il y a eu aussi le Village mondial des alternatives à Montreuil. Deux jours où il y a eu plus de 30 000 personnes qui sont venues.
Donc lui a pu se tenir sans souci.
Qu'on a maintenu, parce qu'au début, c'était remis en question.
On ne voyait pas de voiture de police, pas de grand déploiement, quelques agents municipaux peut-être, et puis tout le monde circulant dans des rues qui avaient été mises à disposition, dans des salles.
J'imagine aussi que c'était pour des questions aussi de visibilité internationale, hein, parce que il y avait, je pense, d'autres ONG du monde entier qui étaient là.
Tout à fait.
Donc il aurait été, ça aurait peut-être fait un petit peu tâche de vraiment.
Rien.
Ça valait le coup de tenir quoi.
Complètement. Et puis qu'il y ait ces élans de solidarité, de vie, de partage.
Oui,
vraiment des moments très forts, je pense.
Qui ressortaient des conférences aussi. Une grande solidarité aussi. Un grand. une grande prise de conscience de tous ensemble au niveau de la planète.
Puis il y a eu des actions un peu plus marquantes, les lignes rouges, enfin des choses qui marquent par la scénographie de là.
La ligne rouge, c'était une espèce de chaîne humaine qui.
C'était des grands rubans qui sur 300 mètres ont été déployés sur 300 mètres dans l'avenue de la Grande Armée. On a développé des rouleaux là de tissu rouge, et sur ces tissus rouges, les gens devaient venir aussi avec des couleurs rouges et porter une fleur rouge, et les fleurs rouges ont été posées sur ce grand ruban rouge de 300 mètres entre l'Arc de Triomphe et la Défense, qui étaient des lieux symboliques.
On est en train de dépasser une ligne rouge, où on risque de ne plus pouvoir revenir en arrière. C'est ça l'inquiétude, en fait. C'est qu'à un moment, ce que disent les climatologues, c'est qu'à un moment, ça va s'emballer. Le climat, et que là, il sera trop tard.
C'est ça qu'on a porté.
Les messages étaient très différents entre celui du VMA où on montrait des solutions. On est plutôt dans quelque chose de festif, de très positif.
Le VMA qui était le
village mondial des alternatives à Montreuil. Et donc ce village où ça rassemblait les gens qui ont des solutions. Donc on est plutôt dans la dimension positive et puis la dimension d'alerte et de lutte avec les actions non violentes. Des formes aussi un peu de désobéissance civile pour dire d'un côté on monte les solutions, mais d'un autre côté on n'est pas d'accord et on va pas lâcher comme ça, parce que c'est une forme de démocratie, de reprendre le pouvoir sur un pouvoir qui ne nous convient plus en fait.
La Confédération paysanne, par exemple, avec Via Campesina, a occupé la place Stalingrad une journée. C'était une journée de manifestation tranquille pendant que se déroulait le procès à Nantes des paysans qui sont encore sur leur terre à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était un grand lien avec Nantes où on a respiré un peu lorsqu'on a su que le procès était ajourné. Mais bon, c'est que maintenant, ce n'est pas encore fini. Mais cette journée a pu avoir lieu. Et là, ce sont les paysans qui se sont imposés aussi, qui ont imposé leur volonté. Et la veille, ils avaient manifesté déjà également. Bon, alors qu'il y avait davantage de déploiements de voitures, mais loin de nous. Et tout se passait très bien sur la place pendant toute une journée.
Même pour certains, ont pu détourner l'interdiction de manifester dans l'espace public en faisant plutôt des rassemblements, donc effectivement plus organisés, plus ou moins de façon, souterraine, entre guillemets, dans des lieux qui sont plus considérés comme privés, comme des transports en commun. Je crois qu'il y a des gens qui ont organisé des choses dans les trains ou dans des centres commerciaux qui sont en plus des places assez symboliques sur la question du commerce et de la surconsommation.
Il y a eu des actions dans plein d'endroits, devant des sièges. Il y a eu un concert de Alexis Hachka
dans une banque.
Dans la banque, siège de la BNP.
Pendant trois quarts d'heure.
Et ce qui est super, c'est qu'il y a eu du monde, il n'y a eu aucune dégradation. Aussi que on peut. Le but est vraiment dans la non-violence et dans le respect, mais de dire on n'est pas d'accord.
C'était fort, c'était intéressant.
Ça a été organisé c'est l'intérêt aussi, c'est qu'il y avait plein de gens, en fait, et plein de gens très différents. Ça allait il y avait Alternatiba, mais il y avait les Amis de la Terre, il y avait la Confédération Paysanne.
Greenpeace, Oxfam.
Via Campesina.
Les paysans, qui veut dire les paysans du monde entier, aussi. Mm-hmm. Ça, c'est très fort. Et c'est vrai qu'à côté de tout cela, il y avait un gros travail d'échange dans les conférences, un travail de réflexion, d'échange, d'apport de témoignages, qui était très, 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 très fort.
Et beaucoup de bénévoles. Fort.
Énorme. On le voyait là dans les lieux qui recevaient et qui nous recevaient pour les conférences. Grand travail commun. Et en même temps, tous les soirs, pendant la COP, des comptes rendus qui nous venaient du Bourget. Les personnes, nos amis accrédités au Bourget, qui recueillaient les informations qu'ils recevaient quand les séances s'arrêtaient. Et ils venaient et disaient que ça ne marchait pas, que ça n'avançait pas. Et ils ont donc fait un sitting le jeudi soir, je crois, devant la salle de conférence, pour dire ça ne peut pas continuer comme ça.
C'est, donc, au total, c'est quand même beaucoup d'actions. Par contre, honnêtement, très peu relayées dans les médias.
Voilà.
En tout cas, dans les médias nationaux.
Voilà. C'est la technique des médias qui sont entre les mains des pouvoirs des riches, hein, et qui trient et qui choisissent. Donc, il faut aller vers
Des médias,
Indépendants. Et c'est pour ça que c'est dur quand même. Hein. C'est un petit peu dur le travail des associations.
Parce on lâche pas, quand même.
Ah oui, voilà. Hein, voilà. Mais il faut dire quand même que ce n'est pas facile. Hein.
Et on se retrouve pour terminer l'émission après une deuxième pause.
Pétrole. J'aime ça, le pétrole. N'importe quoi pour du pétrole.
Moi, j'aime le pétrole. Oh, oh, oh. Il aime le pétrole. Il aime le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimez le pétrole. Ils aiment le pétrole. Oh, oh.
Je suis capable de tout pour du pétrole. Qui a du pétrole, je flambe. Je fonds. Je brûle. Je me consume.
Écoutez, Pétrole Pop, alors issu de la bande originale, un film de Jean-Yann qui s'appelait Moyen à vouloir des sous. Alors nous, c'est pas forcément les sous qui nous intéressent, mais pouvoir continuer à vivre sur notre planète. Donc on continue donc sur le thème de l'après COP21. Donc on évoquait un peu tous les mouvements qu'il y avait eu malgré les difficultés ou les interdictions et contraintes, notamment par rapport à l'état d'urgence. Et on se disait, que faire maintenant? Parce qu'il faut pas lâcher la vigilance. Comme dit, l'urgence climatique, elle est toujours là, même si on a eu l'impression qu'après la signature de l'accord, tout allait bien, on n'entendait plus trop parler. Mais et puis que voilà, aussi les mouvements ont pas forcément été très médiatisés, donc il faut quand même pas s'arrêter là, parce que l'urgence, elle est toujours là. On vient de réentendre parler un peu de la COP21 parce que entre ministres, ils viennent de se passer la présidence. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Nous aussi, on peut faire des choses.
Ouais. Et on est fort justement de ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui s'est passé au moment de la COP. On est fort parce qu'on sait que il y a des mouvements forts, des mouvements qui sont soutenus par les gens. Et que l'idée c'est de continuer clairement, de pas rentrer dans du fatalisme ou surtout d'en sortir quand il y en a et de vraiment, j'ai envie de dire, de continuer à ouvrir le mouvement encore plus parce qu'il reste quand même parfois dans certains milieux, dans certaines voilà, donc de continuer à intégrer, à montrer à ce que les gens se sentent de plus en plus concernés et qu'ils passent à l'action. Mm-hmm. Pas juste qu'ils se disent, ah oui, tiens, voilà. Parce que finalement, c'est en faisant, c'est en commençant un petit pas et en rencontrant des gens qu'on commence à se questionner plus et à se dire que ça ne va pas et que voilà, il faut du changement.
Oui, le 27 février, un grand rassemblement est attendu et demandé à Notre-Dame-des-Landes. Et là, les mouvements continuent, bien sûr, les appuis continuent. Même chose le 28, dans le midi. Il va y avoir un grand rassemblement aussi dans le Gard. Et c'est un appel contre l'exploitation des gaz de schiste qui... Là aussi, réveille tout le monde et qui est une mauvaise nouvelle. Hein. Bon, avant la COP, Hollande va partout demander des efforts et tout de suite après, on nous annonce des solutions qui sont des solutions carbonées. Donc,
oui, la vigilance, faut pas lâcher
sur des choses comme ça, sur des luttes vraiment, on n'est pas d'accord et on le dit.
Voilà, continuer, mais tous ensemble, continuer, fort de la coalition climat reste en place, à Lyon, elle continue, et donc tous les associations, les collectifs sont amenés à se joindre et à chercher comment continuer à agir pour... marteler et pour porter le message donc des alternatives.
Vraiment, oui, continuer à mettre aussi en lumière les incohérences quand il y en a entre un discours et puis parfois la politique, la réalité. Notamment on évoquait le traité TAFTA. Enfin, voilà des choses où vraiment pointer que là non, ça ne va pas. On peut pas en même temps dire qu'il faut réduire et limiter les émissions de GES et de gaz à effet de serre et en même temps encourager le libre-échange.
L'intérêt, c'est peut-être des gens qui sont venus parce qu'ils avaient une fibre écologique et dire, ça dépasse ça. Tant que la COP21, elle sera inférieure, enfin, du moins l'accord de la COP21 sera inférieur aux accords qui sont pris dans le cadre de l'OMC, c'est pas tenable. Donc aussi, à ce que les gens militent aussi pour ça, contre le TAFTA, parce que ça... Tout marche ensemble, en fait.
Mais c'est clair, et au début, je sais pas comment c'est l'attaque, mais nous, Alternatiba, c'est au début, quand on rentre, on est un petit gens les uns rentrent parce qu'ils font du vélo, les autres parce qu'ils sont...
Il y en a un qui lutte contre les OGM.
et que finalement, à un moment, on se rejoint, on se rencontre, on grandit les uns avec les autres, on apprend beaucoup aussi du mouvement.
Mais ce que disait Josette, par exemple, même apprendre à comment lutter, quand tu dis, si on est deux, on peut porter un message politique.
La démocratie participative, des modes de fonctionnement même de l'asso qui finalement... nous montre comment on peut mieux fonctionner ensemble.
C'est formateur.
Hyper formateur. Mmh. Et quelque part, ça nous amène autre chose que ce que la société nous amène. Mmh.
Ceci dit, le travail des associations fait de longues luttes, comme ATTAC et comme beaucoup d'autres, qui se sont penchées sur la finance, ce qui veut dire aussi sur le commerce, l'industrie, l'agriculture, tous les investissements. En ce moment, on se rend compte que c'est tout l'industriel qui domine par devant les décisions politiques. Hein. L'industriel pèse et, par exemple, j'entendais parler de l'exploitation de la forêt. Eh bien, les forêts françaises vont être exploitées selon des méthodes industrielles. Et ce qui veut dire qu'on diminue le nombre de gardes forestiers, on diminue le service public et on va exploiter de façon dangereuse. Par exemple, l'usine E.ON qui se monte à Gardanne est une usine qu'on va approvisionner en bois parce qu'on a voulu arrêter le charbon. Mais on va aller chercher les bois de 400 km à la ronde. On va vider des forêts au lieu de se servir de résidus de scierie, par exemple. Et on va faire fermer des scieries. J'entendais la Gardanne, il y a des oppositions aussi contre cette usine parce que sous couleur d'énergie renouvelable, le bois peut-être, qu'on fait trop grand, trop gros. Et ce ne sont pas les changements qu'il nous faut. Il nous faut des changements locaux. Et à mesure humaine, qui soit les moins...
Clairement, le local... Le...
coûteux possible, oui.
Et finalement, préserver aussi notre environnement, notre écosystème petit, pour préserver un bien commun qui est plus large, le climat, et qui est à nous.
Donc, il y a des luttes. Il y a des luttes à faire.
Et vraiment, moi, je pense que une des volontés, c'est de montrer
ce qui existe, et de redonner aux gens la capacité d'agir, enfin de voilà, d'être en mouvement et en action, et pas juste passif et subissant par rapport à ça.
Bien sûr.
Il y a un message à donner, et tout ça en vivant, en riant, et en...
Oui. Voilà. Mm-hmm. Et des fois, en pouvant vraiment montrer ce qu'on sait faire, alors que, par exemple, dans le monde du travail, on n'a plus la capacité de le faire, et que c'est devenu certainement un des endroits les plus antidémocratiques qui existent. Voilà, voilà. Et donc c'est
partager aussi nos savoir-faire, nos savoir-être.
En tout cas, à une seconde de 19h, on vous dit on lâche rien, on vous laisse avec le Canu Info. À dans deux semaines.
Au revoir.
Au revoir.